Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h32.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et notre invité ce matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est porte-parole de la France insoumise en Bretagne. Il est venu jusqu'au micro de la matinale en direct et je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre-Yves Cadalin, une campagne présidentielle qui se lance enfin avec un contexte très particulier. C'est vrai, le mot a été lâché, le mot guerre, la guerre en Ukraine, qui occupe évidemment la une de l'actualité depuis plusieurs jours maintenant. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire, cette guerre en Europe, aux portes de l'Europe ?
Bien, la situation est extrêmement grave et je crois que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a souligné et premièrement... Je crois qu'il faut souligner que la nécessité est de vrai, évidemment, à la paix, au cessez-le-feu le plus rapide possible et aux conditions d'une stabilité et d'une sécurité en Europe. Là, c'est quelque chose qui apparaît de façon absolument flagrante. D'autre part, il est clair que la guerre étant déclenchée, de nombreux Ukrainiens, vous l'avez vu, non seulement meurent, et c'est absolument terrible, mais il y a également ceux qui fuient, ceux qui sont sur les routes, ceux qui essayent de trouver de telle sorte une échappatoire. Eh bien, le devoir que nous avons comme Européens, c'est de les accueillir. Et je pense que ce devoir-là, doit être commun à toute l'Europe. La France doit prendre sa part et il faut souligner cette nécessité. Il y a donc une double nécessité, par sens de la stabilité internationale et de notre sécurité collective, œuvrer à la paix, d'une part, et d'autre part, par humanité, à la fois fournir de l'aide humanitaire en Ukraine et accueillir les réfugiés qui viennent à nous.
Alors on a beaucoup de gestes de solidarité, des plus importants avec des mairies, des structures également, parfois privées aussi, qui envoient de l'aide en Ukraine. Les associations qui font un travail aussi important, qui accueillent les réfugiés, aussi de simples citoyens qui ouvrent leurs portes tout simplement pour que les réfugiés rentrent. Est-ce que c'est source d'espoir justement ?
À chaque fois que se manifeste la solidarité, effectivement, il y a de la lumière. Il y a l'idée que, effectivement, nous ne sommes pas condamnés toujours au conflit, à la guerre, à la violence, et que la manifestation liée à l'agression russe ne résume pas la seule possibilité pour notre avenir. Et je crois d'ailleurs qu'il est important de souligner que de nombreux Russes manifestent, s'opposent à la guerre. Et s'opposer à la guerre en Russie, c'est faire preuve d'un courage incroyable, car beaucoup d'entre eux se trouvent
leur
en prison.
Liberté, hein.
Tout à fait, beaucoup d'entre eux se trouvent en prison, sont très fortement réprimés. Mais il y a quelque chose d'absolument clair, y compris sur le plan historique. Les peuples russes et ukrainiens sont très liés. Ils n'ont pas envie de se faire la guerre. Et dans ce contexte, lorsque je dis qu'il faut œuvrer à la paix, c'est en m'inspirant de quelqu'un qui, d'une certaine façon, est franchement associé à notre idéal politique, à notre famille politique, c'est Jean Jaurès, qui, dans une situation de montée, d'escalade, de conflit, a toujours tenu, comme aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon la tient, la ligne ferme de la paix, du courage de la négociation, du courage de la diplomatie. Car il est bien plus facile, en réalité, de faire la guerre que de construire la paix. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est important, Jean-Luc Mélenchon tient un meeting dimanche à Lyon, un meeting pour la paix, il est important de dire que le parti pour la paix, il est là, il est défendu notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais pas uniquement en France, et qu'il faut absolument que les va-t-en-guerre se calment. Car ce dont nous avons besoin, non seulement en France, mais en Europe et pour les Ukrainiens, c'est qu'il y ait des puissances de médiation. Et la France doit jouer. Elle a la tradition diplomatique pour cela. Elle doit jouer la force de médiation dans le conflit. Et de ce point de vue-là, le fait que Emmanuel Macron ait considéré qu'il soit nécessaire de maintenir un contact diplomatique avec la Russie est un fait important et qu'il faut souligner. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne prend pas, alors qu'il est le parti des va-t-en-guerre. Il faut donc ouvrir, élargir le plus largement possible ce mouvement pour la paix. Et c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon propose la tenue rapide et dans les plus brefs délais d'une conférence internationale européenne sur la paix dans le cadre de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, l'OSCE, qui a déjà, par le passé, servi de cadre de médiation entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. car il est important de discuter des points de friction, des casus belli, et d'obtenir le cessez-le-feu immédiat, le retrait des troupes russes, et ensuite, eh bien, c'est l'œuvre des négociateurs et des diplomates de parvenir à ce que la situation se stabilise. Mais nous ne sommes pas, et je veux passer ce message aujourd'hui, nous ne sommes pas condamnés à la guerre généralisée. Il est important de faire preuve de courage, le courage de la paix et de la diplomatie.
Alors, si je voulais me faire un peu l'avocat du diable, Pierre-Yves Cadalin, mardi dernier, chez nos confrères de TBO, vous disiez « œuvrer pour la paix est une nécessité impérative hein, », vous le répétez à notre micro. Mais je serais tenté de vous demander, n'est-ce pas trop tard désormais, au vu de la détermination dont fait preuve Vladimir Poutine ?
Il y a deux éléments. À ce propos, je voudrais souligner. Le premier, c'est que le calcul politique international de Vladimir Poutine est manifestement mauvais. Son armée est vouée à s'enliser en Ukraine. Et d'ailleurs, la progression militaire en Ukraine, nous verrons bien ce qu'il en est dans les jours à venir, mais la progression russe est plus lente que ce qu'ils avaient anticipé. Mais ensuite, si jamais il veut rester, il devra payer des coûts incroyables pour une occupation dont la Russie n'a pas les moyens. Rappelons à celles et ceux qui nous écoutent que la Russie, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne. Ce n'est pas une puissance qui se mesure, par exemple, à la taille des États-Unis. Donc le premier élément qu'il est important de souligner à ce propos, c'est que Vladimir Poutine et l'armée russe ne peuvent rester longtemps en Ukraine sans des coûts économique et politique terrible, dont le temps joue pour nous, le temps joue pour la paix, le temps joue pour la diplomatie. Et dans le même temps, je le disais, il faut effectivement appuyer, avec une aide internationale humanitaire, les Ukrainiens. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est nous pouvons discuter des sanctions. Les sanctions économiques, discutons de celles qui sont utiles et de celles qui ont prouvé leur inefficacité, puisqu'il y a des sanctions qui portent sur la Russie depuis 2014.
Certaines ont donné lieu. Il y a un durcissement, finalement.
Il y a un durcissement des sanctions, et il faut effectivement essayer, d'une certaine manière, tout l'arsenal des sanctions pour remettre Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais des sanctions qui n'ont pas été essayées assez dures. Ce sont les sanctions qui porteraient directement sur Vladimir Poutine et les milliardaires qui l'entourent. C'est au fond une forme de mafia qui dirige la Russie et qui a dans des comptes bancaires et dans un tas d'endroits où on blanchit l'argent,
paradis
l'équivalent
fiscaux,
de 85%, imaginez-vous, 85% du PIB de la Russie. 1,3 milliard qui sont à l'extérieur des frontières russes et que nous devons saisir. Que nous devons saisir.
Il faut vraiment taper Poutine lui-même au portefeuille.
Je pense, parce que l'idée n'est pas de faire souffrir davantage la population russe ou les populations européennes, puisque la logique des sanctions commerciales risque à terme de produire ce genre d'effet. De frapper directement les responsables, c'est-à-dire mettre des sanctions extrêmement lourdes sur Vladimir Poutine et les oligarques, voilà une manière sensée de faire monter le rapport de force pour qu'ils reviennent à la table des négociations, car c'est bien cela dont nous avons besoin urgemment.
Alors, il y a eu des critiques envers Jean-Luc Mélenchon autour de ses propos concernant l'Ukraine et plus particulièrement Vladimir Poutine. Alors, on a vu les réseaux sociaux, une fois encore, qui ont fait la caisse de résonance habituelle et qui se sont déchaînés. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon a protesté et on avait aussi beaucoup de protestations de la part de la France insoumise, ou en tout cas de ses militants à divers niveaux. Vous rappelez finalement que Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu ses propos ?
Les personnes qui nous attaquent de ce point de vue-là ne citent jamais aucun propos précis. Il y a une sorte de petite musique, il serait pro-russe, il serait pro-Poutine, sans jamais s'appuyer sur aucune preuve, aucune justification. Je crois que le contexte, et j'en suis certain en réalité, le contexte est beaucoup trop grave pour se livrer à ce genre de polémique politicienne. Certains croient, en nous attaquant de la sorte, essayer d'entraver notre campagne présidentielle, mais nous ne voulons pas placer le débat de ce point de vue-là. Le débat doit être placé sur un plan réel, celui de la paix, celui du sort des Ukrainiens et celui de la sécurité à moyen terme en Europe. De ce point de vue-là, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours tendent à être, elles sont celles d'un homme d'État qui est prêt à gouverner le pays, qui est prêt surtout à occuper en avril prochain la fonction de chef d'État qui, sur le plan diplomatique et international, est absolument centrale. Donc je crois que les personnes qui nous attaquent de ce point de vue-là feraient mieux, devraient concrètement, de mettre des propositions sur la table pour que la situation s'améliore au lieu de s'abîmer et finalement de faire preuve d'une bassesse qui est assez regrettable.
Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, monte dans les sondages. On a l'impression que la campagne décolle, enfin. Alors ça correspond un petit peu aussi à la campagne générale pour l'élection présidentielle. Mais là, on a l'impression qu'il y a une dynamique de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui progresse petit à petit, mais qui avance.
Mais nous le voyons hein, sur les marchés, au porte-à-porte, d'une certaine manière, les militants aguerris de la France insoumise qui militent. Bon, moi, je peux parler pour ceux qui militent, notamment en Bretagne. Eh bien, ils sont absolument frappés de voir qu'effectivement, non seulement chez... Eh bien, il y a des gens qui étaient déjà convaincus par nos idées, qui sont extrêmement motivés, qui se disent qu'il y a là l'opportunité d'un grand changement sur le plan social, écologique, qui enfin rouvre un peu l'horizon dans le pays. Mais il y a également des personnes qui étaient plus éloignées et qui se disent, mais... L'opportunité que présente ce programme et l'application de ce programme dès le mois d'avril ou le mois de mai, eh bien, est à saisir tout de suite. Et effectivement, c'est une dynamique que nous sentons sur le terrain et qui, j'en suis persuadé, n'est pas prêt de s'arrêter. Nous avons déjà d'ailleurs observé une dynamique similaire en 2017, la dernière fois. Et je pense que les étapes là et la gravité de la situation internationale, mais également la gravité de la situation sociale en France, exige des réponses à la hauteur. Et ces réponses, je crois qu'elles sont contenues dans nos analyses et dans notre programme depuis déjà plusieurs années.
Alors justement, un programme de gauche, hein, voilà, on dit que la gauche aujourd'hui a du mal. En tout cas, la France insoumise propose un programme de gauche, l'Avenir en commun, c'est l'intitulé de ce programme.
Qui est disponible désormais sur Internet, mais à l'AEC.fr. Il est également disponible en librairie pour 3 euros.
Voilà, alors il fallait que ce soit dit. Programme très social, hein, on va pas le détailler entièrement, justement, les auditeurs qui veulent peuvent se le procurer. Programme très social, aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande angoisse sociale des Français. Alors, inquiétude autour des factures, comment payer ces factures en fin de mois d'électricité, de gaz. Là encore, ça nous ramène à la crise ukrainienne et à la guerre en Ukraine. Cette angoisse, quelles mesures rapides, finalement, dès le mois de mai, finalement, pourraient peut-être essayer de casser cette dynamique de hausse des prix et au moins conserver le pouvoir d'achat ?
Bien, la dynamique de hausse des prix, et nous sommes les seuls à formuler cette proposition aussi clairement, elle doit être arrêtée par un blocage des prix. Et le coût de ce blocage des prix doit être assumé par les fournisseurs de pétrole, notamment, je pense à Total, qui a fait des bénéfices indignes de plusieurs milliards et qui, au fond, fait son beurre, Total, eh bien, sur la misère des gens, sur le fait qu'on ne puisse pas payer les factures en fin de mois. Donc, blocage des prix, c'est une mesure d'urgence qui sera prise immédiatement en avril par le président de la République si les Français en décident ainsi que c'est Jean-Luc Mélenchon. D'autre part, le contexte social général appelle des mesures fortes également sur la rémunération du travail. Car tout le monde le sait bien, aujourd'hui, le travail ne paye plus assez. Les loyers augmentent deux fois plus vite que le SMIC dans ce pays, vous imaginez.
Les gens ne peuvent plus se loger aujourd'hui à cette inquiétude réelle.
Donc, il faut agir sur les deux tableaux. J'ai dit blocage des prix pour l'essence. Je dis également encadrement des loyers. Car aujourd'hui, la loi d'encadrement des loyers qui avait été votée n'est pas respectée. Il faut qu'elle soit respectée fortement et il faut en changer le mode de calcul pour qu'elle fasse réellement baisser les loyers. Car aujourd'hui, c'est effectivement un coût beaucoup trop important pour les ménages. Et c'est une question fondamentalement de justice sociale. Car vous voyez, 2% des ménages en France sont détenteurs de 50% du parc locatif privé. Il y a des gens qui, du fait des politiques mises en place ces dernières années, se gavent pendant que eh bien, la vaste majorité des travailleurs ne parvient pas eh bien, à boucler les fins de mois. Donc, il faut agir sur les prix, il faut également rémunérer le travail à sa juste valeur. Nous commencerons par l'augmentation du SMIC qui sera immédiatement portée à 1 400 euros net et convoquerons une conférence générale sur les salaires parce qu'il faut que les salaires augmentent dans tous les secteurs. c'est quelque chose d'essentiel. Et l'État, en tant qu'employeur, revalorisera également les salaires, le point d'indice, comme on dit, hein, le salaire des fonctionnaires. Parce que notre fonction publique également, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, le secteur hospitalier, eh bien, est ravagée du fait que les fonctionnaires ont perdu beaucoup ces 30 dernières années de pouvoir d'achat.
Il n'y a pas eu de revalorisation finalement. Hein,
du point d'indice.
Du point d'indice.
Non, non, non.
Alors, on pourrait
donc vous... à chaque fois, on perd. Voilà. Les fonctionnaires perdent. Lorsque le point d'indice est gelé, ça veut dire qu'à la même fonction, eh bien, vous finissez par gagner moins. Au bout de 15 ans, si vous n'êtes pas revalorisé, vous êtes mangé par l'inflation. Donc c'est toujours pareil, les prix et les salaires.
Alors on vous objectera aussi qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont un parc locatif, des petits propriétaires. Il faut tenir compte aussi que tous ne spéculent pas peut-être. Et est-ce qu'il y aura... j'allais dire une observation justement de ces... Et c'est comme pour l'augmentation du SMIC, il y a aussi des petites entreprises, des PME qui disent « Oh là là, si on augmente le SMIC, on ne pourra pas tenir. »
Pour l'augmentation du SMIC, notre programme prévoit un fonds de solidarité inter-entreprise justement pour que les entreprises qui ont des difficultés à ce moment-là à assumer la hausse du SMIC, eh bien, puissent trouver dans ce fonds de quoi appliquer cette mesure qui est une mesure, encore une fois, pas uniquement de justice sociale, c'est-à-dire c'est une mesure qui dit il faut payer le travail à la hauteur de la valeur produite. On revient un peu à la base de l'économie, mais ce sont les travailleurs eux-mêmes qui produisent les richesses. Donc ils ont mérité, ils doivent pouvoir gagner leur vie, ils doivent pouvoir vivre dignement à partir du travail qu'ils effectuent. Et quant aux propriétaires, si vous voulez... L'extension du parc social, on propose par exemple de créer 1 million de logements dans le parc social sur le mandat. Ça ne va pas affecter les petits propriétaires. Ça ne va pas. Le problème n'est pas de frapper les petits propriétaires. D'ailleurs, je vous parlais de lutter contre la spéculation par rapport aux quelques-uns qui détiennent la moitié du parc immobilier. C'est bien là davantage que se trouve le problème. Je ne veux pas être trop technique, mais par exemple, les niches fiscales qui permettent pour un certain nombre de personnes de ne quasiment plus payer d'impôts sur le revenu pendant plusieurs années parce qu'ils achètent et ensuite relouent dans le parc privé, ces niches fiscales devront être abolies.
Est-ce qu'il faut remettre en place l'impôt sur les grandes fortunes ? On en parle beaucoup aussi en ce moment.
Ah oui, oui, tout à fait. C'était non seulement le signe manifeste que Macron s'est posé comme le président des riches d'emblée dans son mandat, qu'il est au service, d'une certaine manière, des plus fortunés dans le pays. Et il faut remettre en place l'ISF, d'autant que vous noterez qu'il n'en a... on parlait de l'immobilier. L'ISF immobilier existe toujours. Et donc, qu'a supprimé Emmanuel Macron, l'ISF sur la valeur financière. L'ISF, si vous voulez, pour les banquiers, pour faire un peu simple. Eh bien, nous, nous ne sommes pas amis avec les banquiers. Nous remettrons en place cet impôt qui permet que ceux qui ont beaucoup... Eh bien, partage. Et c'est dans le même sens que nous proposons un héritage maximal à 12 millions d'euros et au-delà de ces 12 millions d'euros, ça concerne 0,1 % de la population, voilà, hein, vous imaginez bien.
Voilà, tout le monde n'a pas 12 millions d'euros en transmission, effectivement.
C'est énorme. Eh bien, au-delà de ces 12 millions d'euros, les sommes seraient reversées pour une allocation d'autonomie étudiante et une allocation d'autonomie pour ceux qui sont également dans l'enseignement professionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de concentrer toujours davantage de richesses, nous proposons que ceux qui en ont beaucoup trop, eh bien, pensent à l'avenir de la nation, à l'avenir du pays, et qu'ils investissent via l'État dans notre jeunesse.
Alors justement, la jeunesse, elle a beaucoup souffert avec le Covid-19. Les étudiants ont eu faim, ont toujours faim, pour quelques-uns, n'arrivent pas à se loger, parfois à se déplacer. Là aussi, chantier important.
Mais je le vois bien en tant qu'enseignant, je donne des cours à l'UBO à Brest ce semestre. Je vois bien qu'il y a des étudiants qui, travaillant, ont du mal à suivre leurs études. Et c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps. Certains libéraux essayent de vendre cela comme le travail étudiant va leur permettre de s'insérer sur le marché du travail, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Il faut une allocation d'autonomie étudiante. Il faut permettre que les étudiants puissent se former, parce qu'ils vont mieux se former, ensuite ils vont être mieux qualifiés et ils vont permettre, c'est un pari sur l'avenir, à notre économie ensuite de mieux tourner. Et nous avons besoin, dans le cadre de la planification écologique, du grand tournant qu'on doit prendre à partir de la question écologique, nous avons besoin de gens hautement qualifiés qui réfléchissent, qui savent articuler les défis sociaux, les défis écologiques, les défis techniques que tout cela pose. Donc l'investissement dans la recherche, l'enseignement et la formation est absolument décisif et a été complètement abandonné ces dernières années. On a le sentiment, si vous voulez, que ceux qui nous ont gouvernés ces trois derniers quinquennats ont laissé le pays en friche. Ils laissent le pays en friche délibérément, ils détruisent les services publics, ils mettent un sentiment général de désorganisation dans le pays. Il faut remettre de la stabilité. Et pour avoir de la stabilité, il faut des services publics forts, un État qui accomplit les missions de la République sociale, le travail qui paye, de l'égalité sociale, quelque chose qui permette enfin de refaire ensemble société. Car c'est de cela dont nous avons besoin et que les riches cessent de faire sécession comme malheureusement ils ont été encouragés à le faire ces derniers quinquennats.
Alors vous parliez de métiers techniques pour les jeunes qui étudient aujourd'hui, qui vont arriver demain sur le marché du travail et qui devront effectivement se confronter à des métiers très technologiques, y compris dans le cadre de la transition écologique, on en parle beaucoup en ce moment, et de l'énergie. Alors ça me donne une transition en ce qui me concerne toute donnée pour l'énergie, parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du côté, évidemment, difficulté sociale avec les gens qui n'arrivent pas à payer leurs notes d'électricité ou de moins en moins. Est-ce qu'il va falloir aussi, par exemple, de renationaliser EDF, avoir un service, j'allais presque dire, universel de l'énergie électrique ?
Il faut un pôle public de l'énergie. Effectivement, il faut d'un côté un pôle public de l'énergie et de l'autre côté, il faut remettre sur la table quelque chose qui manifestement a été inefficace. Là encore, je n'ai pas envie d'être trop technique, mais c'est la libéralisation du marché de l'énergie au niveau européen. C'est-à-dire, mais les gens peuvent s'en rendre compte eux-mêmes si ils ont décidé de changer d'opérateur, puisqu'on les y a incités lourdement, puisque personne ne voyait trop intérêt au départ à le faire. Si on les y a incités, alors un coup, ils vont payer moins cher, mais dès lors qu'il y aura une tension sur le marché, ils vont payer extrêmement cher, à tel point que certains fournisseurs ont dû faire faillite et refiler le bébé ensuite à l'opérateur EDF. Donc il faut revenir à des choses sensées.
Qui a connu d'ailleurs des difficultés de ce fait.
Tout à fait. En plus, si vous voulez, c'est comme d'habitude, nationalisation des pertes, privatisation des profits. Il faut revenir à quelque chose de plus sensé, un pôle public de l'énergie qui organise la transition énergétique, parce que de ce point de vue-là, il y a effectivement un gros morceau, il y a du travail à faire, il faut décarboner notre économie, il faut sortir du nucléaire. On voit bien que le nucléaire, d'ailleurs, est extrêmement dangereux comme source de production électrique. Et je m'étonne qu'Emmanuel Macron trouve dans le conflit ukrainien une occasion de défendre le nucléaire, puisqu'il l'a dit dans son allocution, alors même que l'on voit bien le problème incroyable de sécurité que pose un conflit militaire là où des centrales nucléaires existent et que c'est un enjeu de sécurité qui dépasse de loin les frontières ukrainiennes.
Alors, on va aller très vite. Il nous reste 4 petites minutes, me faisait signe notre réalisateur. Justement, vous avez commencé à en parler de ce bilan d'Emmanuel Macron. Comment vous le jugez en quelques mots ?
Le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan social est désastreux. Il a continué à aggraver les inégalités, il a précarisé le marché du travail pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, j'adjoins ceux qui peut-être nous écoutent et ne rencontrent pas dans leur vie ce genre de problème, à vraiment prêter attention à la difficulté que rencontrent aujourd'hui les jeunes à trouver un emploi stable, à la difficulté qu'il y a à passer finalement de situations intérimaires, d'emplois intermittents, de CDD à des CDI. C'est aujourd'hui extrêmement compliqué. Et les réformes du Code du travail n'ont fait qu'aggraver violemment ce problème. Nous reviendrons sur les réformes El Khomri qui avaient été promulguées sous Hollande et les réformes Macron du droit du travail, puisqu'elles ont favorisé cette dynamique. Et sur le plan écologique, l'inaction climatique du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, a été condamnée par la justice française. Donc il faut se rendre compte que Macron souvent se paye de mots. Il s'est même autoproclamé champion de la Terre lors de ce quinquennat. Lorsqu'on en arrive aux faits et à la nécessité d'engager la transition, il n'est pas là. D'autre part, sur le plan démocratique, puisque je veux en dire un mot, nous sommes les partisans de la 6e République. Il est temps de passer à un régime démocratique. Nous proposons de le faire en convoquant une assemblée constituante où les citoyens, pourraient participer, ils éliraient des constituants et ensuite ils participeraient via des comités et des droits de pétition à la refonte de nos institutions pour qu'elles soient plus en phase avec le pays, plus en phase avec les enjeux de l'époque, car nous avons vu, notamment lors de la crise sanitaire que nous avons affrontée, que la gestion très personnalisée, très centrée sur l'exécutif, brusquait le pays. Mmh. Et Emmanuel Macron, d'une certaine manière, était un diviseur. Jean-Luc Mélenchon, avec le programme L'Avenir en commun, est un rassembleur. C'est un programme de rassemblement, ce pourquoi nous avons appelé la force qui nous porte pendant sa présidentielle, l'Union populaire.
On va devoir se quitter, Pierre-Yves Cadalin, parce que voilà, le temps est très rapide dans la matinale. Je regardais l'horloge en même temps. Il nous reste une petite minute. La campagne se déroule dans un contexte, on en parlait en commençant, très particulier. Sur le terrain, vous ressentez l'angoisse, vous ressentez est-ce que les gens ont la tête ailleurs ou est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller à l'élection et d'aller mettre un bulletin dans l'urne?
Tout le monde est conscient que l'élection présidentielle est l'élection décisive dans la vie politique de notre pays. Donc il y a un intérêt croissant pour cette élection. Bien entendu, tout le monde est inquiet du contexte. Mmh. Mais justement, le problème géopolitique, le problème social et économique, l'aggravation du changement climatique sont tous des problèmes qui appellent à un programme de rupture, un programme qui a une vision générale et qui fonde cette rupture, je l'ai dit, sur la dynamique réelle qu'il nous faut construire, celle de l'union populaire, c'est-à-dire que nous devons faire société, faire peuple, pour aller vers un horizon meilleur sur le plan social, celui de la solidarité, de la République sociale, qui correspond à Jean Jaurès, que je citais tout à l'heure.
Voilà, on a commencé par Jean Jaurès, on termine avec Jean Jaurès.
Voilà.
La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Pierre-Yves Cadalin, en direct ce matin au micro de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la France insoumise en Bretagne, et vous êtes venu de Brest, et vous y repartez, je crois.
Tout à fait, merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, belle journée.
Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.